Je vous inviterai avec moi dans le livre de Job. Dans le livre de Job, le chapitre 13 et le verset 4, uniquement le verset 4. Un petit verset qui en dit long, un petit texte, quelques petits mots qui nous éclairent pas mal sur ce que l'on entend, ce que l'on ne devrait pas entendre ou ce que l'on n'entend pas et que l'on devrait entendre. Job répond à quelques-uns de ses amis, à quelques-uns de ses soi-disant défenseurs, mais plutôt accusateurs, et on va comprendre quel est le sens de tout cela. Il leur répond avec des mots qui sont durs quand même. Hein. Donc, Job, chapitre 13, verset 4. « Car vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes des médecins de néant. » Alors, à préciser que ses amis ne sont pas médecins, hein, mais ils veulent prodiguer des soins, et comme ils ne savent pas quoi dire ou pas quoi faire, ils le font très très mal, donc évidemment, des médecins qui ne servent à rien parce que, eh bien, ce n'est pas leur job, ce n'est pas leur métier. « Vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant. » J'aimerais prier pendant quelques instants avant que l'on partage ensemble quelques pensées. Seigneur, nous venons devant toi cet après-midi et nous venons de chanter tellement de chants qui témoignent de ta puissance, de ta grâce, de ta bonté, de ta bienveillance, que nous sommes vraiment, vraiment convaincus que tu n'as pas changé, que tu demeures le même. Maintenant, au travers de ta parole, j'aimerais convaincre, si cela était nécessaire, quelqu'un de ce message. J'aimerais lui apporter un message authentique et vrai en lui rappelant que le Saint-Esprit peut convaincre de péché. Moi, je ne pourrais que l'amener sur ce terrain de la foi, et j'aimerais que toi tu puisses travailler son cœur pour le convaincre que tu n'es pas un médecin de néant, tu n'es pas quelqu'un qui n'imagine que des faussetés, mais au contraire tu es venu avec la vérité pour la partager avec nous. Et merci de ce que tu vas nous enseigner encore cet après-midi. Fais-nous du bien, guéris, sauve, délivre, je t'en prie, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Vous savez ce qu'est un faussaire ? Ouais. C'est quoi un faussaire ? Avant tout, c'est un artiste. Et ouais, c'est un artiste. Parce que le bon faussaire, il va vous vendre un Picasso, 30 000 euros, vous allez dire c'est l'affaire du siècle, pour lui. Parce que ce n'est pas un Picasso. Sinon, ce serait 3 millions d'euros, au moins, minimum. Il va vous faire de la fausse monnaie, il va vous faire des faux papiers, un faussaire. Un faussaire, d'ailleurs, c'est assez curieux, il y a des gens qui ont fait des écoles d'art, qui ont travaillé auprès de grands maîtres, soit des peintres ou autres, et ils ont été à bonne école, et bizarrement, ils n'ont pas réussi dans leur vie. C'est curieux, mais ils ne sont pas devenus artistes. Alors, ils sont devenus artistes du faux. Faussaires. Ils sont devenus artistes du faux et il y a quelques procès retentissants qui ont eu lieu. On dit de quelqu'un, j'ai oublié son nom, mais je crois qu'il a dû peindre plus de 3000 tableaux d'artistes reconnus. Des Chagall, alors il allait dans toutes les époques, hein, puisqu'il faisait de l'impressionnisme, du moderne, etc. Et il a inondé le marché avec des faux. Il y en a même qui se sont retrouvés, écoutez bien, dans des galeries d'art. C'est-à-dire qu'il a réussi à tromper les experts. Il faut le faire quand même. Hein. Pour ainsi dire, ces gens avaient un vrai talent. Et on a envie de dire, mais c'est dommage, pourquoi vous n'avez pas fait vos propres œuvres ? Eh bien, eux-mêmes l'avouent, j'ai essayé d'être un artiste, mais je ne vendais rien. Ça ne plaisait pas, je ne vendais pas. Et quand je copiais le vrai, ben, ça se vendait. Alors, il en a copié tout un tas au début en expliquant que c'était du faux, mais il y a des gens, ils s'en fichent. Hein. S'ils peuvent avoir un faux chez eux, ils sont contents parce que ça va impressionner les gens. Oh là là, vous avez vu le tableau qu'il a ? Ils ne vont peut-être pas dire que c'est un faux, mais ils sont tout contents. Donc, tant pis, pour quelques milliers d'euros, on peut s'équiper quand même. Donc, certains ont fait leur carrière comme ça, faux, mais des artistes. En fait, Si je pousse un peu plus loin mon raisonnement, je dirais que ce sont des faussaires menteurs. Parce que ce sont de vrais artistes, mais des vrais qui font du faux. Alors ce sont des menteurs. C'est des gens qui vous feraient croire que vous ferez passer les vessies pour des lanternes, certainement. Mentir et être persuasif, dites-moi, est-ce que ce n'est pas tout un art? Non? Moi, je suis un très mauvais menteur. Hein. Et j'en suis fier, d'ailleurs. Ça m'embêterait d'être un bon menteur. Hein. Voilà, mentir, bof. Il y en a, c'est des experts, quoi. Ils sont capables. Ils sont capables de vous faire croire plein de choses. Et les amis de Job, vous avez remarqué, ils vont lui inventer des fautes. Ça m'est arrivé quelquefois, peut-être que la mésaventure vous est arrivée, de vous faire arrêter par la police, des gendarmes, parce que vous avez commis une infraction. Vous n'êtes pas arrêté vraiment au stop, vous avez ralenti, vous n'êtes pas arrêté, vous avez tourné, manque de peau, ils étaient juste là. Et donc, ils vous arrêtent. Et la première chose qu'ils vont vous dire, monsieur, madame, vous n'avez pas vu le stop ? Ils vont vous poser la question. C'est légal, ils sont obligés de vous poser la question. De toute façon, quoi que vous disiez, vous échapperez pas au PV. Hein. Mais alors, on se dit, ah, et si je dis non ? Eh bien non, je ne l'ai pas vu. Ah, vous auriez dû le voir. De toute façon. Hein. Et si vous dites oui, je l'ai vu, ils vont vous poser la deuxième question logique. Mais pourquoi vous vous êtes pas arrêté ? Ça sert à ça, stop. Pourquoi vous n'êtes pas arrêté ? Il m'est arrivé une mésaventure comme ça il y a très longtemps. On était dans la région. Maintenant, je connais mieux la région, mais à l'époque, je la connaissais un petit peu moins bien. Et on allait de Gap, on était sur le centre de vacances pour une rencontre, et on devait monter à Briançon pour aller voir un pasteur qui était hospitalisé là-bas. Et donc, pour éviter tout le centre de Gap, c'était en semaine, quand on connaît la route, vous êtes au centre, vous allez sur Talard et vous passez par derrière pour arriver jusqu'à Chorges, à l'entrée de Chorges. Et donc, on était plusieurs dans la voiture, c'est moi qui conduisais. Il devait être, je ne sais pas, 13h, 13h30, 14h, donc assez tôt, ce qui fait qu'il n'y avait pas grand monde sur la route. Et puis, c'est une belle route, hein, entre parenthèses, la liaison, là. Sauf que quand vous arrivez sur la route principale, il y a un stop, parce que vous arrivez sur une nationale, quand même. Et puis, je n'ai pas bien évalué où est-ce que j'arrivais, on était en train de parler, et au dernier moment, quelqu'un dans la voiture me dit « Le stop !» J'ai juste eu le temps de piler. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture. Sauf que, même si j'ai pilé, je me suis retrouvé en travers sur la nationale. Pour dire que je n'avais vraiment pas vu le stop. Hein. Donc, en travers de la nationale. Heureusement, il n'y avait personne. Donc, on se remet des émotions. Je repasse la première. Et alors, j'avais quand même tourné dans le bon sens. Hein, et je repars. Et qu'est-ce que je vois en face de moi ? Vous n'allez pas me croire. Un car de gendarmerie. J'ai dit, ce n'est pas possible. Et là, je me suis dit, peut-être qu'ils ne m'ont pas vu. Et je regarde dans le rétroviseur, et hop, il fait demi-tour, tranquillement. Il va jusqu'au bon endroit pour faire demi-tour, et hop, il fait demi-tour. Il me suit, puis à un moment donné, appel de phare, clignotant, je m'arrête. Et donc, le monsieur sort et me dit, vous n'avez pas vu le stop ? J'avais envie de lui dire, ben non, vu comment je me suis arrêté, c'est sûr que je ne l'avais pas vu, hein, parce que je me suis arrêté, mais tout en travers. Eh bien, je n'ai pas échappé au PV. J'ai eu beau lui dire, mais écoutez, vous avez bien vu que j'ai tout fait pour m'arrêter quand même. Mais bon, c'est... eh bien non, tant pis. De toute façon, c'était dangereux. Hein. Une voiture arrivée par là. Bref, donc, mentir, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Les amis de Job, comme ils voient leur ami qui a des tas de problèmes, des tas de difficultés, il ne s'en sort pas, il est tombé malade, c'est comme si une espèce de malédiction lui était tombée dessus. Ben, eux, ils essayent de comprendre. Alors, comme ils essaient de comprendre, au plus ça va, au moins ils comprennent. Donc, il faut bien inventer des solutions. Ou plutôt, inventer des problèmes pour essayer d'inventer des solutions. Parce que quand on part sur ce terrain-là, ce ne sont que des supputations. On ne sait pas où on s'en va. Mais ils essayent. Et à un moment donné, ça va agacer Job quand même. Il n'en peut plus. Et c'est comme s'il leur disait, mais vous êtes des faussaires. Vous essayez d'inventer une vérité, vous essayez de copier un mal pour le reproduire, pour dire que c'est certainement mon problème. Vous n'imaginez que des faussetés. Et je me dis que ses amis sont en train de lui inventer des fautes et lui expliquer pourquoi il est coupable et pourquoi il est condamnable. Bon, c'est pas très heureux, mais bon. Et lui, il faut faire face quand même. C'est pas évident, parce que quand vous allez pas bien et que quelqu'un vous dit « je vais t'expliquer pourquoi tu vas pas bien », en fait, c'est simplement de ta faute. Ben, ça ne vous aide pas trop. Et là, manifestement, c'est ce qu'ils font. Et pour essayer de surnager par rapport à ça, il faut quand même avoir certainement l'esprit assez vif. Il faut être capable et être déterminé pour résister. Mais il faut également, à côté de ça, connaître le vrai. En fait, si quelqu'un vous vend un faux tableau et que par bonheur, vous êtes un peu expert en la matière, et qu'il vous ment, il vous embobine, etc. Si vous avez l'œil, parce que vous connaissez les traits du maître et vous savez ce qui est vrai, vous allez être capable de lui dire « Désolé, c'est un faux ». Non ? Mais si, comme moi, vous n'y connaissez rien, vous risquez de plonger les deux pieds dedans. Et là, Job, s'il ne connaissait pas le vrai, c'est-à-dire le Créateur, celui qui lui avait donné la vie, s'il n'avait pas jusqu'alors eu une vraie relation personnelle avec Dieu, il aurait pu se laisser emporter par tous ses arguments. Parce que ça sonne vrai, ça sonne juste, ça sonne vrai. Il y a une logique, vous pourrez les lire dans tous les discours de ces gens-là, il y a une logique qui est appuyée sur des vérités. C'est beaucoup plus difficile de cerner le vrai du faux, sauf que lui, il ne va pas se laisser piéger, parce qu'il sait que Dieu existe, il sait que Dieu existe parce qu'il a une relation personnelle avec lui, et il a décidé d'entretenir cette relation avec son Dieu, et en fait, il a décidé de rester confiant en Dieu. Aujourd'hui, si on transpose le passage, je dirais que des faussaires en tout genre pullulent. Il y en a quantité tout autour de nous. Alors, des faussaires qui ne vont pas faire de faux tableaux, mais ils vont enseigner de fausses choses. Ils vont travestir la vérité. Ils vont, vous faire croire que c'est écrit dans la Bible, alors que ce n'est pas exactement ce qui est écrit. Et donc, il y a tout un tas de faussaires qui essaient de copier la vérité. Ils essaient de faire le tableau parfait pour vous faire croire que ça, c'est vrai, ça, c'est juste, ça, c'est parfait. Mais si on ne fait pas attention, on a affaire à des faussaires menteurs. Je vais vous en citer quelques-uns, et qui ont cours encore aujourd'hui. Un discours que l'on rencontre encore aujourd'hui, c'est celui-ci. Vous pouvez désobéir à Dieu, n'ayez aucune crainte, il n'y a aucun risque à cela. Le premier qui a inventé cette idée-là, c'est Satan lui-même. Il ne faut pas aller chercher bien loin. Quand vous arrivez dans la Genèse, dans les premiers textes de la création, vous avez Dieu qui a créé le monde, puis Adam et Ève, et la Bible dit qu'à un moment donné, le diable, Satan, va discuter avec Adam et Ève et va leur tenir un drôle de discours. Il va leur dire, ça se trouve dans la Genèse au chapitre 3, il va leur dire, vous êtes dans un magnifique jardin, je paraphrase, vous êtes dans un magnifique jardin et pourtant vous n'avez le droit de ne manger aucun des fruits du jardin. Ce à quoi l'homme répondra en disant, non, c'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est qu'au contraire, on a le droit de manger de tous les fruits des arbres du jardin, à l'exception d'un seul, qui se trouve au milieu du jardin. Et c'est là où on entre dans une discussion. Et de cette discussion va sortir ces mots de la bouche même du diable, suite à l'avertissement qui avait été donné à Adam et Ève par Dieu, « Vous n'en mangerez pas, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Et le diable dira, « Mais vous ne mourrez pas. » C'est là le piège. Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc l'air de dire, c'est exactement le contraire. Non seulement vous n'allez pas mourir, mais vous allez mieux vivre. Grosso modo, ça veut dire cela. Donc vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le premier de ces mensonges, le premier de ces faussaires qui sévit encore aujourd'hui, c'est celui qui vous fait croire, parce que le diable, c'est un expert de l'imitation, c'est un expert de la tromperie, de la séduction et du mensonge. Il vous fait croire que vous pouvez, tant que vous voulez, désobéir à Dieu, ça n'aura guère d'incidence, pas beaucoup d'incidence, et peut-être même que ça vous libérera de tout un tas de vieux préjugés, de tout un tas de vieux principes, des espèces de sornettes, des choses anciennes, etc. Non, vous pouvez être libéré de ces choses-là. Écoutez, Satan, écoutez ceux qui vous disent cela, c'est certainement une grave erreur. Et puis écoutez, discuter avec Satan était une erreur fatale pour Adam et Ève, parce que dans le fond, Satan était plus rusé qu'eux. Il paraît que ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Alors je n'ai pas rencontré beaucoup de vieux singes, mais des gens qui savaient faire de belles grimaces, j'en ai connu pas mal. Ouais, parce qu'on apprend, évidemment, pour faire sourire, pour faire rire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si vous voulez être malin, méfiez-vous, il y en aura certainement un plus malin que vous. Et alors que vous pensez avoir fait une bonne affaire, c'est l'autre qui va se frotter les mains, comme dit la Bible, et chacun dira « j'ai fait une belle affaire ». En fait, la Bible nous dit que Satan, le serpent, sous les traits du serpent, était le plus rusé de tous les animaux des champs. À votre avis, pourquoi c'est écrit? C'est anecdotique, hein? Le plus rusé des animaux des champs. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir? Mais ça a à voir que le diable s'est déguisé en somme et s'est servi de cet être créé qui était reconnu comme le plus malin, le plus sournois pour aller tromper l'homme. Et dans la bataille, eh bien, l'homme y a perdu beaucoup parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi et le fait est qu'il est vraiment mort. Alors, il n'est pas mort en tombant raide par terre comme s'il faisait un AVC ou une crise cardiaque. Mais il y a une rupture, ça lui a coûté d'ailleurs le paradis, ça lui a coûté Éden, ça lui a coûté le jardin d'Éden, et à partir de ce moment-là, il a été chassé loin, loin de la présence de Dieu. En fait, si vous voulez vous amuser, entre guillemets, et à jouer avec le feu, en disant, oui, la Bible dit qu'il ne faut pas faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela. Il paraît que Dieu nous demande de ne pas agir de telle et telle manière, mais une petite entorse au règlement, ce n'est pas si grave. Vous pouvez vous amuser à cela, hein? Une petite entorse au règlement. Sauf qu'il suffirait d'une seule pour tomber dans un piège terrible, parce qu'on s'aperçoit que le diable va les séduire et vous ne résisterez pas au piège du diable, vous ne résisterez pas à sa logique, et en fait, il va vous endormir, et au bout du compte, il va vous emprisonner. Quelque part, ils étaient protégés à l'intérieur de ce jardin, et du jour au lendemain, ils vont être expulsés de ce jardin, et ils vont être emprisonnés, si vous voulez, mais hors de la présence de Dieu. Ça, c'est terrible. Il vaut mieux être près de Dieu que loin de lui. Et en agissant de cette manière-là, c'est tout simple, hein? Vous ne mourrez pas, ce sont des foutaises, ça n'est jamais arrivé, c'est un piège. Si quelqu'un vous a dit cela, c'est un faussaire, il ne vous dit pas la vérité. Il vous a peint quelque chose qui ressemble à la vérité, mais c'est un faussaire, c'est un artiste, mais il ne fait que du faux. Il n'imite que le vrai et le fait de l'imiter nous montre que c'est du faux. Il y a un autre discours que l'on entend aujourd'hui, et ce discours a été défini dans la Bible comme s'il sortait de la bouche de quelqu'un qui serait contre, non pas qui mettrait en doute, mais qui serait carrément contre, et contre qui? Eh bien contre le Christ, le Messie. Dans une lettre, l'apôtre Jean va écrire ces quelques mots, dans sa première lettre au chapitre 2, et au verset 22, il dit ceci, « Qui ?» C'est une question, hein. Qui est menteur, sinon celui qui nie, du verbe nier, que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et un peu plus loin, il dit la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. En fait, antéchrist ou antichrist, ça revient un petit peu à la même chose. C'est-à-dire, on est contre. Et ces gens-là vont nier le fait que Jésus soit venu pour sauver l'humanité. On l'a chanté tout à l'heure. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, tu es venu pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, on trouve pas mal de discours où on vous parlera de Dieu, on vous parlera des prophètes, on vous parlera d'un Dieu qui peut agir, qui peut être bon, qui peut bénir, qui peut délivrer, mais on va soigneusement écarter l'idée d'un Messie et l'idée d'un Christ. Christ, Messie, ça veut dire la même chose. On va écarter l'idée d'un sauveur, en somme. Et puis on va plutôt partir sur le terrain que oui, le ciel existe, le paradis, on peut être sauvé, mais pour cela, il suffit juste de faire quelques efforts. Allez-y, retroussez vos manches et faites quelques efforts. Et tout d'un coup, on entre dans une idée, dans une doctrine, où on parlera plutôt d'un salut qui peut s'acquérir à force de peine, à force d'abnégation, à force de souffrance, et quelque part, on essaye de gagner son ciel. Mais si quelqu'un vous a dit cela, il est en train, en vous disant cela, de nier ce que Jésus a fait. Et nier ce que Jésus a fait pour nous, c'est enlever tout profit, enlever tout intérêt à ce message-là, et finalement, il n'y a plus rien à retirer de cela, et ça, c'est bien dramatique. Où trouver le mensonge et l'erreur? Eh bien, dans tout enseignement qui enlèvera à Jésus le titre de Messie et de Sauveur. Vous en avez tout un tas qui mettent en doute l'idée de ce que Jésus a accompli lorsqu'il meurt sur la croix. Vous avez des sectes qui mettent en avant l'idée que Jésus n'est pas mort sur une croix, c'est totalement impossible. Alors, on dira qu'il est mort autrement, il est mort peut-être sur un poteau, ou alors certains vous diront même qu'il n'est même pas mort. En fait, au dernier moment, il y a eu un échange, on a mis quelqu'un d'autre. Ou alors, on vous dira, c'est encore plus subtil, qu'il n'est pas mort spirituellement, mais c'est juste le corps, un corps qui a été en fait désincarné. La personne messianique n'était plus à l'intérieur. C'est comme si, finalement, c'était une enveloppe vide qu'on crucifiait sur la croix. On en cherche des explications. Alors que la vérité est quelquefois si simple, si simple. La vérité, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est tout. La vérité, c'est que Jésus est venu apporter le salut aux hommes. Et Jésus, si quelqu'un vous dit que Jésus n'est pas le Christ, n'est pas le Messie, alors il n'y a plus de message. Le message est vide, on ne sait plus quoi vous dire. Oui, on va vous dire, allez, prenez courage et faites votre possible, débrouillez-vous comme vous pouvez. Mais ce n'est pas un message heureux, celui-là. C'est un message triste, c'est un message terrible de vous dire, essayez de faire des efforts, allons, un peu de courage. C'est difficile à dire quand même, quand quelqu'un est au bout du rouleau, quand quelqu'un n'a même plus une once de courage, est incapable de faire un effort. C'est cruel de lui dire, il faut faire un effort. Je préfère vous dire que quelqu'un a porté vos dettes, votre dette, vos péchés, et je préfère vous dire que quelqu'un a porté vos erreurs et vos fautes, et il est capable de vous transformer, de vous transporter jusqu'à un avenir meilleur. C'est le Sauveur, c'est le Sauveur. SOS, viens sauver nos âmes, Seigneur, on en a besoin. Et dans le fond, sans le Fils, c'est ce que dit l'apôtre Jean, il n'y a plus de Père. Sans Christ, il n'y a plus de Dieu. Sans Dieu, il n'y a plus de vie éternelle. Il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de paradis, il n'y a plus rien. Alors, il vous suffirait d'en enlever une toute petite chose et toute la machine va se dérégler et plus rien ne va fonctionner. Cet après-midi, une réalité, c'est que Jésus est réellement le Christ. Vous avez un autre personnage que l'on rencontre très, très, très souvent. C'est celui qu'on appelle l'athée. Vous savez ce que c'est un athée ? Ouais, vous savez ce que c'est ? C'est quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe. Alors, à mettre peut-être avec une nuance, parce que beaucoup de gens vous diront « je suis athée, je ne crois pas en Dieu ». Ah, c'est pas qu'ils ne croient pas que Dieu existe, ils sont plutôt agnostiques, mais on va les mettre ensemble. Des gens qui nient, qui ne croient pas que Dieu existe ou que Dieu puisse faire quelque chose, que ça ne les intéresse pas, ils iraient même jusqu'à le croire. Ces gens-là, la Bible les a trouvés. Et la Bible les nomme ainsi, insensés. C'est le psaume 14 qui dit cela. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est clair, hein ? L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Savez-vous que dans le monde aujourd'hui, il y a énormément d'églises, de temples qui sont à vendre ? Énormément, partout, en Angleterre, en France, ailleurs, dans des tas d'endroits, parce qu'ils sont désaffectés, il n'y a plus personne qui les fréquente. Et si vous connaissiez la seconde vie de ces églises et de ces temples, ça fait drôle quand même, hein, même si on n'est pas attaché à la pierre, et même si ça reste de la pierre, et puis voilà. Mais certaines de ces églises sont devenues des restaurants. On a transformé ça en restaurant. D'autres sont devenues des discothèques. D'autres sont devenus, écoutez bien, j'y croyais pas, des églises athées. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont se réunir, faire un genre de réunion comme on fait nous, hein, pour proclamer Dieu est mort, Dieu n'existe pas. Il faut vraiment se donner de la peine. C'est fou, hein ? Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que tout, absolument tout, c'est possible parce que ça sort de beaucoup de cerveaux très, très, très imaginatifs. Eh bien, c'est une réalité. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui disent « Dieu n'existe pas ». Une autre traduction dit « Ils sont fous, tous ceux qui pensent que Dieu n'existe pas ». Alors, on peut se poser la question, parce que peut-être avez-vous déjà discuté avec des gens qui disent cela. Il m'est arrivé de discuter quelquefois avec certains, et la question revient systématiquement « Mais pourquoi vous ne croyez pas ? Qu'est-ce qui fait ?» Que vous ne croyez pas. Alors, je mets de côté tous ceux qui vous diront « j'ai été déçu, j'ai été blessé, j'ai été contrarié » parce qu'ils sont malheureusement très, très, très nombreux, ces gens-là, mais je pars avec celui qui, dès son enfance, a vécu dans une famille où on ne croyait pas en Dieu, on ne pratiquait pas, on avait bien formulé cela et on l'avait dit et redit que Dieu n'existait pas, que Dieu était mort. Donc, ces gens-là vivent avec cette certitude que Dieu n'existe pas. Alors on leur pose la question, mais si demain on vous dit que Dieu existe, en quoi ça chamboulerait vos convictions? Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que des gens sont croyants? Parce que souvent ceux qui ne croient pas sont virulents contre ceux qui croient. Mais pourquoi ça vous dérange? Et quand vous grattez, vous apercevez que chez certains, ben, ça rend bien service de dire que Dieu n'existe pas. Parce que quelque part, il n'y a plus personne pour vous accuser. Vous êtes libre dans votre conscience, libre de faire ce que vous voulez. Qui va vous reprocher quelque chose? Parce que dans l'inconscient collectif, on se dit quand même que quand on parle de bien et de mal, on rapproche souvent ça à Dieu, à la divinité, aux croyances. Donc s'il n'y a plus de croyances et s'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, chacun fait comme il veut. C'est facile, hein? C'est facile finalement. Après tout, j'ai plus personne pour me reprocher quelques fautes. Je suis, quelque part, décomplexé. Décomplexé, et je suis prêt à toutes les expériences. Certains sont prêts à vivre toutes les expériences, hein, dans tous les domaines. Hein. Je me suis aperçu avec le temps aussi que, selon ce que dit la Bible, le pain du mystère, vous savez, ce qu'on ne connaît pas, ce qui est mystérieux, c'est agréable. C'est-à-dire qu'on a toujours une espèce de convoitise de ce qu'on ne connaît pas, on a envie de le connaître, et ça s'appellerait transgression, peut-être. On transgresse l'ordre établi, les principes établis, il est interdit d'interdire, hein, interdit. Hein. Alors, en fait, on s'aperçoit bien souvent que ceux qui transgressent régressent. Et au bout du compte, on les retrouve quelquefois tellement confus. Tellement confus. On a connu des jeunes gens, je dis « on », parce que vous les avez connus, ils ont été célèbres. Ce sont des stars du cinéma, de la chanson. On a connu des jeunes gens qui sont devenus célèbres à 10 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans. Et on les a vus, pour certains, basculer dans le « tout est permis » et partir dans toutes formes de transgression. Vous les retrouvez des années plus tard. C'est comme quelque chose, mais de récurrent. Vous les voyez quasiment tous détruits. Détruits par l'alcool, détruits par la drogue, détruits par une triste vie, en somme. Et alors, ils essayent de remonter de toute leur addiction, d'en sortir. Et souvent, malheureusement souvent, peut-être pas tout le temps, mais très, très, très souvent, beaucoup ont dû aller faire malheureusement des cures de désintoxication. Ils ont fréquenté des milieux psychiatriques parce qu'ils avaient besoin de soutien, ils avaient besoin d'être aidés. Bref, décomplexer, c'est une chose. Mais malheureusement, derrière toutes ces transgressions et le fait de dire il n'y a pas de limite, parce que pas de Dieu égale pas de limite, malheureusement, on peut aller tellement loin et ça peut être tellement terrible et tellement grave. Alors, si quelqu'un vous dit il n'y a pas de Dieu, soyez prudent, parce qu'il ne suffit pas de le dire, la conséquence est quelquefois douloureuse. Je continue, il me reste deux points là-dessus, c'est des choses que l'on entend. Aujourd'hui, on a appelé ça une forme de théologie libérale, une nouvelle théologie. C'est l'apôtre Pierre qui en parle dans une de ses lettres. Il va écrire ceci dans sa deuxième lettre, au chapitre 2 et au verset 2, même verset 1er, il dira... Il y aura parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Tiens, voilà encore quelques faussaires qui font passer la doctrine de l'expiation et du rachat, parce que c'est très spécifique au christianisme, cela, font passer ça à la trappe, en disant « on n'en a pas besoin ». Certains qui avaient reproduit des tableaux avaient, parce que reproduire un tableau, il faut aller dans le détail, hein, mais vraiment, vraiment dans le détail. Et certains se sont fait piéger parce qu'il manquait une toute petite touche quelque part. Un tout petit truc de rien du tout que vous et moi, on n'aurait pas vu, mais l'expert l'a vu. Donc, il n'y a pas de détail dans le plan du salut. Vous en enlevez un tout petit morceau, vous cassez tout. Hein, vous cassez tout. Et là, certains étaient arrivés avec une doctrine un petit peu spéciale. Cette doctrine était celle-ci, c'est que, bon, une fois qu'on a fait la paix avec Dieu, il n'y a plus de condamnation. On est libre. Dieu a pardonné nos fautes, il nous a délivrés, on a été rachetés une bonne fois pour toutes, et ça nous conduira jusque dans le ciel. Et puis on lève le pied, on est un peu moins vigilant, certains diraient un peu moins exigeant avec soi-même, et puis on se dit, ben, c'est pas grave, on a été pardonné, que voulez-vous, être racheté à nouveau? Mais non, ça n'a pas de sens. J'aimerais vous dire une chose, c'est que l'homme pécheur est condamné. Et si il n'a aucun moyen humain de s'en sortir. Seule l'intervention de Dieu pourra le libérer. Et si vous enlevez au message l'idée que vous avez besoin d'être racheté, d'être sauvé, sans parler de ceux qui l'auront vécu une fois et qui vont s'en soustraire après, mais déjà dans un premier temps, si l'on ne vous dit pas que vous êtes perdu et que vous avez besoin d'être racheté, que quelqu'un paye à votre place, on vous dit un mensonge. Vous en avez besoin. Il faut payer. Il faut payer. Tout se paye. Et les fautes, elles se payent aussi. Et on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, comme je le disais il y a un moment, beaucoup de choses sont permises, sont tolérées, évidemment. Mais sur quelle base? Sur quel fondement? Aujourd'hui, regardez bien, qu'est-ce qui compte le plus? C'est que l'être humain s'épanouisse. D'ailleurs, certains vous le diront. Dans la discussion, on entend souvent cela. Ben, écoute, oui, il avait envie de vivre telle expérience. Écoute si ça peut lui faire du bien. Si ça peut lui faire du bien. Après tout, tu as vécu ça. Bon, c'est pas trop mon truc, mais ça t'a fait du bien? Tu étais content? Eh ben, je suis content pour toi. Aujourd'hui, c'est bizarre. Il n'y a pas de règle, le curseur, on ne sait pas où le placer, à quel niveau il faut le situer. C'est un petit peu bizarre. Il n'y a qu'une seule chose qui compte aujourd'hui. C'est s'épanouir. Ah, que vous puissiez être épanoui, avoir une vie épanouie. Mais aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit vous vous épanouissez vous-même, soit vous plaisez à Dieu. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles, d'ailleurs. Mais il faut d'abord chercher à plaire à Dieu pour que le reste trouve sa place. Et vous ne serez pas déçus, vraiment pas déçus. Tandis que bien souvent, certains vous diront, « Ouais, ouais, Dieu, l'Église, tout ça, c'est contraignant. Moi, j'ai envie de vivre. » Ah. Vous voulez vous épanouir, eh bien allez-y. Mais cela risque de vous éloigner de Dieu, bien évidemment. Et puis il y a un dernier aspect qui est récurrent, celui-là aussi, c'est toujours dans la même lettre de l'apôtre Pierre, les moqueurs, les moqueurs. Vous en connaissez, vous, des personnes qui se moquent de Dieu et de vous par ailleurs? D'ailleurs, ils se disent « Ah, t'es croyant ? Arrête, c'est pas vrai. Tu crois encore à ça ? Mais comment tu fais pour croire ? Mais c'est pas possible. » Et puis certains prendront plaisir à se moquer peut-être de vous en public, c'est plus facile de le faire en public quand il y a du monde. Et l'apôtre Pierre dit que des gens comme ça ont toujours existé. Ils existaient déjà de son temps, mais il dira qu'avec les siècles qui passeront, ça deviendra un peu plus oppressant. Il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent, c'est pour ça qu'ils disent cela, ils veulent ignorer que des cieux ont existé par ailleurs, que le déluge est arrivé, et que la terre d'à présent et les cieux d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. En fait, certains vous diront, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de jugement. Le jugement dernier, c'est une invention des croyants, des chrétiens, il n'y a pas de jugement. Vous n'avez pas à vous en faire, vous faites ce que vous pouvez, de toute façon la vie elle est difficile pour tout le monde, donc faites ce que vous voulez, il n'y a pas de jugement qui arrive. C'est un discours qui est assez séduisant, il faut le reconnaître, qui peut être même assez apaisant, mais c'est faux. Pourquoi pensez-vous que certains ont traqué des criminels de guerre pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était pour qu'ils payent pour leur faute, qu'ils soient jugés pour leur faute. Et on en retrouve encore, on en retrouvera de moins en moins par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, forcément, puisqu'ils sont très, très, très âgés. Mais certains ont vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus, 50 ans à l'abri, à l'abri. Ils s'étaient fait un autre nom, une autre vie, une autre famille, bien loin de leur lieu criminel. Et ils ont été retrouvés un jour. Ils n'imaginaient pas qu'on vienne chercher un vieil homme de 70 ans, 75 ans ou plus encore pour l'amener devant les tribunaux. Et c'est arrivé. C'est arrivé des tas de fois. Tout ça pour lancer un signal au monde. Le jugement, ça existe. Et si certains s'en moquent en disant « Ouais, le jugement, jamais !» Eh bien, ça peut arriver. Alors, pensez donc, si ça, à l'échelle humaine, ça se trouve, et ça se retrouve, vous pensez bien qu'à l'échelle de Dieu, ça ne s'effacera pas. Ça arrivera, un jour ou l'autre, ça arrivera. Alors, les gens se moquent, ça fait 2000 ans qu'on annonce le retour de Jésus. Les gens se moquent, en disant, vous devriez certainement parler de Dieu si vous voulez, mais pas de ça, parce que depuis 2000 ans, je viens bientôt, ça fait un peu long quand même, hein. Pour quelqu'un qui vit 100 ans, tout au plus, ou pour quelqu'un qui a 25 ans, évidemment, 2000 ans, ça paraît long pour quelqu'un qui dit « j'arrive, je viens bientôt ». Mais face à l'éternité, 2000 ans, c'est rien. Face à un Dieu qui n'est pas dans le temps, qui ne regarde pas les heures et les minutes, et là vous dites « ouh, c'est un peu long cet après-midi », lui n'est pas dans le temps, ça va tellement vite. Pour nous, ça passe tellement lentement le temps, mais pour Dieu, 2000 ans, c'est rien du tout. La réalité, c'est qu'il vient bientôt et il va juger les vivants et les morts. Ça, c'est écrit. Il vient pour juger les vivants et les morts. La seule grâce qui pourrait vous arriver, c'est d'être jugé cet après-midi pour ne pas passer devant le jugement dernier. Ça, c'est possible. Vous pouvez être jugé cet après-midi parce que Jésus vous dit « j'ai payé pour toi ». Et si vous acceptez ce jugement-là, vous passez de la mort à la vie en un instant et la condamnation qui est réservée à tous ceux qui n'en veulent pas de ce jugement-là, elle ne tombera pas sur vous. Elle tombera sur tous ceux qui n'en veulent pas, mais elle ne tombera pas sur vous. Alors tous les faussaires, quels qu'ils aient été, ont tous été des menteurs. Certains vous diront, mais vous pouvez désobéir à Dieu, il n'y a pas de conséquences. Et je vous dis non, il y a d'énormes conséquences que d'obéir à Dieu, et on en paye encore le prix aujourd'hui. Il y a des conséquences. Et puis vous dire que pour s'en sortir dans la vie, aide-toi et le ciel t'aidera, nier la présence et le plan du salut qui passe par Jésus le Messie, Jésus le Sauveur, si vous vous débarrassez de cela, vous n'irez pas bien loin. Et puis, tout jeter au panier en disant qu'il n'y a pas de Dieu, ce serait de la folie. Pourquoi être racheté? Racheté de quoi? Racheté de qui? Vous avez besoin de faire la paix avec Dieu et de plaire à Dieu. Et soyez sûr d'une chose, c'est que le jugement sera rendu. Mais cet après-midi pour vous, c'est le temps de la grâce. Alors on va prier pendant quelques instants et on va s'approcher de Dieu. Et je voudrais que vous fassiez une prière là dans votre cœur. Que vous puissiez vous approcher de Dieu, que vous puissiez solennellement demander à Dieu de l'aide là maintenant, et on va demander à Dieu son aide pour vous. Ne vous laissez plus abuser, ne vous laissez plus tromper par un pseudo-évangile, une pseudo-croyance, quelque chose qui, ça ressemble, ça a les mêmes accents, ça pourrait être la même chose, mais dans le fond, ça n'a rien à voir. J'aimerais vraiment, vraiment, que Dieu étende sa main sur votre vie et vous accorde sa grâce. Et on va prier ensemble. Et je vous invite à prier avec moi et à vous joindre à ma prière. Seigneur, nous venons devant toi cet après-midi parce que nous avons besoin de ta grâce. Nous venons devant toi parce que tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu vrai. C'est toi qui as peint l'original du plan du salut et c'est toi qui l'as fait d'une manière parfaite. Je prie et je te demande ta grâce afin que tu donnes à quelqu'un la liberté et le salut, afin que tu donnes à quelqu'un la vraie vie cet après-midi. Étends ta main, je t'en prie, au nom de Jésus. Étends ta main, manifeste-toi et que ton nom soit glorifié dans une âme et dans une vie. Si quelqu'un avait encore quelques doutes, quelques réticences, qu'il se rende compte que toutes ces réticences n'ont cessé d'empoisonner le discours, n'ont cessé d'empoisonner le monde dès l'origine. Dès le début, le diable est venu et a voulu mettre le doute et a voulu distiller le doute et l'erreur et le mensonge et la fausseté. Mais toi, tu demeures le Dieu de vérité et ton esprit de vérité se manifeste. Je prie, parce que Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie, je prie que tu te manifestes à quelqu'un cet après-midi. Donne à quelqu'un de croire et d'être libéré de ses inquiétudes. Donne à quelqu'un d'être persuadé cet après-midi que tu le sauves de toutes ses détresses, que tu lui apportes le salut, que tu le délivres maintenant, parce que le salut est venu par Christ. La délivrance est venue par l'œuvre accomplie à la croix. Tout cela est une grâce, nous ne méritons rien, mais tu nous aimes d'un amour éternel. Alors merci de ton plan rédempteur et merci de ta grâce cet après-midi. Amen.